Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment préserver la biodiversité en ville? Réponse, remettre en place des trams noires. Les trams noires, c'est l'idée de réduire et même de supprimer l'éclairage en ville pour ne plus perturber les espèces. Nous allons en parler tout à l'heure en détail avec Jean-François Brotteau du CEREMA à Nantes, organisme public qui travaille sur le développement de ces trams noires. Mais tout d'abord, direction Lorient dans le Morbihan, où la ville a décidé d'expérimenter récemment l'extinction des feux afin de préserver la biodiversité urbaine. C'est un reportage de Sabine Croix de Radio Balise, votre radio associative des pays de Lorient, Auray et Quimperlé.
Alors, je suis Bruno Paris, je suis l'adjoint au maire en charge de l'environnement et de la transition énergétique de Lorient.
Et là, il est 5h30 du matin. On est venu exprès à peine avant le lever du soleil parce qu'on va parler d'éclairage public. La ville de Lorient, en effet, a mené une initiative assez particulière l'année dernière.
C'est cela. Nous avons fait le choix de procéder à l'extinction d'une partie de notre parc d'éclairage public. Alors, on a plus de 9100 points lumineux à la ville de Lorient. Et on a fait le choix d'en éteindre à peu près 5000, un peu plus de 5000. Sachant que, effectivement, nous sommes dans cette phase de recherche d'économie, mais aussi, surtout, de transition énergétique, écologique. On essaie d'être le plus autonome possible en matière d'énergie et on a aussi l'envie de pouvoir améliorer les conditions de vie, de la biodiversité dans notre milieu urbain.
Et justement, en termes de biodiversité, quelles espèces ça peut favoriser ?
Alors, on va peut-être parler de trames vertes et bleues. C'est vrai que c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, finalement, depuis à peu près 2009. Et puis surtout, autour de la trame verte et bleue, il y a la trame noire, c'est-à-dire le fait de pouvoir préserver les corridors écologiques que sont les trames vertes et bleues, justement l'influence de l'éclairage public. Il y a un phénomène qu'on appelle la phototaxie ou le phototactisme pour les animaux, qui consiste pour certains à être attirés par la lumière, et pour d'autres, à être repoussés par la lumière. Les batraciens, par exemple, en particulier, sont repoussés par la lumière. Et si vous aménagez un corridor vert pour des batraciens et que vous interrompez ce corridor par des lumières artificielles, l'éclairage public, eh bien, vous interrompez finalement cette trame verte de nuit avec un éclairage public qui est répulsif pour les batraciens en particulier.
Alors, vous avez dit aussi les espèces attirées par la lumière. On pense évidemment en premier lieu aux papillons de nuit. Et il faut savoir aussi qu'ils sont responsables d'une grande partie de la pollinisation. On n'imagine pas, mais ils pollinisent la nuit pendant qu'on dort.
Exactement. C'est aussi l'impact important que l'on peut avoir avec cet éclairage artificiel. C'est des pertes de pollinisation, finalement des pertes de fructification aussi hein, pour un certain nombre d'arbres. Et donc, voilà, on a toute cette population d'insectes qui peuvent être attirés par des lumières artificielles et qui deviennent des proies, finalement, d'autres espèces. Donc, il y a un déséquilibre qui peut s'installer. Les chauves-souris, finalement, parfois, peuvent bénéficier comme ça d'une alimentation assez facile à trouver lorsque vous avez des amas d'insectes qui sont à proximité de points lumineux.
Alors je crois qu'il y a un arrêté ministériel qui précise un peu les modalités de cette trame noire, c'est-à-dire avoir plutôt un éclairage tourné vers le sol, réduire l'intensité lumineuse, éviter notamment les spectres qui tirent vers le bleu, qui sont vraiment dérangeants pour certaines espèces.
C'est cela. C'est vrai qu'il y a une couleur de lumière qui cadre au mieux. Hein. On est plutôt sur des lumières à peu près à 3000 Kelvin, je crois, hein, dans cette gamme de température de lumière, avec de fait des lumières qui sont orientées vers le sol, avec des couleurs justement qui soient adaptées. Et les éclairages boules en particulier sont maintenant proscrits, complètement interdits. Hein, donc il faut les évacuer, les éliminer, les remplacer. Éviter d'orienter aussi des éclairages vers, des, vers la flore en particulier. Hein, c'est, voilà. Donc il y a ce travail-là qui est un travail de couture assez fine. Voilà.
Et vous parliez de lampadaires justement qui sont à proscrire, qu'il faut remplacer. J'ai cru lire qu'un lampadaire ça coûtait 1000 euros.
Oui, alors ça dépend. La plupart du temps, ce que l'on peut faire, c'est garder le mât et puis remplacer simplement la lanterne, ce qui limite un peu l'investissement. Ville de Lorient, on veut rapidement passer au LED de manière intégrale, c'est-à-dire que là, actuellement, on est à peu près à 30% de LED sur la ville de Lorient, on devrait passer à 100% en 4 ans. Donc c'est un objectif assez ambitieux, volontaire. Donc j'espère que fin 2026, ou en tout cas courant 2026, on sera intégralement en LED sur tout l'espace public lorienté.
Mais c'est aussi peut-être un investissement qui se finance via les économies d'énergie réalisées par l'extinction d'une partie, parce que ça coûte de l'argent en fait d'éclairer les rues tout le temps.
Ça coûte très cher, c'est le deuxième budget d'électricité pour la ville de Lorient. Il y a encore peu de temps, ça représentait plus de 600 000 euros par an. Ça en représente un petit peu moins maintenant, mais nous sommes rattrapés très vite par l'augmentation du coût de l'électricité, ce qui fait que finalement notre budget éclairage public peine à baisser malgré les efforts que l'on fait en matière d'extinction parce que le prix d'électricité s'envole de manière très, très conséquente actuellement. Donc oui, l'investissement dans les LED sera en partie amorti, assez rapidement amorti, je le pense, hein, puisque la durée de vie des LED peut être à peu près d'une vingtaine d'années. Donc c'est un investissement, je dirais, rentable économiquement, mais c'est pas uniquement l'économie qui nous guide, hein, c'est aussi le fait qu'on veut consommer moins et qu'on veut, sur ce territoire, avoir la plus grande autonomie énergétique possible.
Alors, pour rappel, les horaires, vous l'avez dit, minuit 6 heures la semaine, mais c'est repoussé à 1h30 le vendredi et le samedi soir. Est-ce que, par exemple, dans des temps forts, on pense forcément à l'interceltique, ça pourrait être aussi la semaine à 1h30?
Alors c'est un débat, c'est quelque chose qu'on doit évaluer en conseil municipal, hein, c'est des choses sur lesquelles on travaille, on discute. Il y aura une évolution quand même de nos équipements en matière d'éclairage public, c'est-à-dire que on investira de manière un petit peu moins rapide sur la technologie qui nous permettra de piloter à distance notre éclairage public et justement de mieux répondre à des sollicitations ponctuelles sur les quartiers ou sur le fil ou sur des événements qui vont faire qu'on pourra choisir d'éclairer telle ou telle partie de la ville ou tel quartier de manière plus facile, plus rapide pour les services techniques. C'est compliqué, hein. On a pu mesurer au moment de la demande d'extinction de l'éclairage public sur la ville, que les services techniques étaient en difficulté de répondre rapidement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'armoires techniques, hein, sur Ville de Lorient, et que, comme on sortait d'une époque où on éclairait toute la ville, quasiment, eh bien, les interconnexions des rues avec les grandes artères étaient souvent une solution, je dirais, de rapidité, de facilité pour les services techniques, c'est-à-dire qu'on se connecte sur une armoire, et on se rendait compte qu'en éteignant ou en coupant l'armoire, on éteignait une artère principale et en même temps on éteignait tout un tas de petites rues. Donc c'était assez anarchique. Donc il a fallu pour les agents de la ville de Lorient avoir un travail de longue patience, de décâbler, recâbler des armoires pour pouvoir déconnecter en fait des artères de certaines rues de petits quartiers. Donc ça a été un gros boulot, ça a demandé à peu près 3 mois, hein, à l'échelle de la ville. Et voilà, on espère dans le futur disposer d'un outil qui nous donnera la capacité de piloter bien plus facilement des points lumineux à distance. Quoi.
Voilà pour ce reportage sur les expérimentations d'extinction des éclairages publics sur la ville de Lorient, une réalisation de Sabine Croix de Radio Balise. Alors pour aller un peu plus loin sur ce qu'on appelle les trams noires, nous sommes en liaison aujourd'hui avec Jean-François Brotteau, chef de projet biodiversité au département des transitions territoriales au CEREMA à Nantes. Jean-François Brotteau, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CEREMA et de quelle façon cet établissement public est impliqué dans la lutte contre les nuisances lumineuses, en particulier en milieu urbain?
Oui, alors le CEREMA est effectivement un établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. On accompagne l'État, les collectivités territoriales et aussi les acteurs privés dans le déploiement, l'évaluation des politiques publiques d'aménagement et de transport.
Et alors du coup, comment vous accompagnez les collectivités urbaines sur ce sujet des trams noires ?
Alors, on accompagne tout type de collectivités, urbaines ou moins, sur le sujet de la réalisation d'études appliquées, prospectives sur la pollution lumineuse. On aide aussi à la définition de mesures permettant d'allier usage des espaces publics, sobriété énergétique et prise en compte de la biodiversité. Et puis on participe parfois à la diffusion des connaissances par des actions de formation ou la rédaction de fiches techniques sur le sujet de la trame noire, y compris avec des partenariats nationaux comme l'Office français de la biodiversité ou l'Association française de l'éclairage.
Alors justement, on parle de trame noire depuis le début de cet entretien. Qu'est-ce qu'on appelle les trames noires exactement et pourquoi leur développement est absolument essentiel pour le développement ou le redéveloppement de la biodiversité en milieu urbain?
Oui, les trames noires sont effectivement des espaces favorables au déplacement des espèces. C'est ce qu'on appelle un peu plus trivialement la trame verte et bleue. C'est-à-dire des notions auxquelles vous avez été confrontés. Et ces trames vertes et bleues, en fait, c'est des espaces sur lesquels la pollution lumineuse serait réduite, voire inexistante, dans le meilleur des cas. Parce que l'obscurité est vraiment essentielle au déplacement des espèces qui se sont adaptées au fil du temps à l'alternance du jour et de la nuit. D'ailleurs, pour faire simple, on estime à peu près la moitié des espèces qui ont les mœurs nocturnes pour leur reproduction, leur alimentation ou leur repos. Pour reprendre l'exemple des amphibiens, ils ne migrent que la nuit pour leur reproduction, donc la pollution lumineuse peut avoir un réel impact sur les populations en migration. Autre exemple, par exemple, avec les vers luisants, dont une variation de 0,1 lux peut les impacter très directement. Pour avoir une idée de ce que c'est 0,1 lux, on dit qu'une nuit de pleine lune est équivalente à 0,5 lux.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines espèces sont clairement perturbées finalement par cette luminosité urbaine, par l'éclairage public, par les éclairages de commerce notamment également.
Très clairement. Les études montrent des impacts pour toutes les espèces, pour tous les groupes d'espèces, y compris les espèces réputées plus adaptées à la lumière, en tout cas ayant une capacité à se développer avec la lumière, ont malgré tout des impacts possibles, en tout cas des difficultés concernant l'alimentation, concernant la reproduction, concernant leur repos. Par exemple, ça peut modifier le système de proie prédateur, donc ce qui peut poser des problèmes à la fois pour la proie et le prédateur.
Oui, avec le développement également de la luminosité en ville, des éclairages publics, on a pu assister effectivement peut-être à des perturbations qui se sont accrues ces dernières années, ces 30-40 dernières années peut-être.
De manière générale, on constate une augmentation de l'éclairage public. Alors jusqu'à maintenant, ça a peut-être changé avec les difficultés énergétiques, mais d'environ 2% de croissance de pollution lumineuse par an, ce qui n'est pas négligeable. Et on commence à mesurer. Alors, il y a des effets très anciens qui ont été mesurés au début des années 1900, par exemple des collisions avec les phares, donc, qui montrent que les oiseaux en migration étaient perturbés par la pollution, enfin, en tout cas la lumière artificielle. Et puis des études de plus en plus récentes et de plus en plus nombreuses qui montrent des perturbations directement à l'éclairage public.
Alors on l'a entendu dans ce reportage tout à l'heure tourné à Lorient, on a entendu un élu qui nous explique l'expérimentation que sa ville a mis en place, on parle bien d'expérimentation pour l'instant. Est-ce que pour vous c'est un exemple emblématique de ce qu'il faut arriver à réaliser, à généraliser? Est-ce que vous avez par exemple noté peut-être des choses qui seraient à améliorer dans cet exemple de la ville de Lorient?
L'exemple de la ville de Lorient est intéressant. Alors, faut savoir qu'évidemment, l'idéal pour la biodiversité serait l'extinction totale. Donc, il y a toujours des améliorations possibles sur des expérimentations de ce type, en tout cas des actions de ce type. Sauf qu'il est aussi nécessaire de prendre en compte nos usages et donc d'avoir des échanges en amont avec les habitants qui sont primordiaux pour faire accepter ces mesures. Si on n'a pas cette discussion, les mesures seront difficilement acceptables sur le terrain et donc difficiles à mettre en œuvre. On peut aussi saluer le remplacement systématique par des LED avec des couleurs plutôt chaudes, mais il faut aussi faire attention au spectre d'émission, c'est-à-dire que la lumière que nous on voit est assez différente de la lumière émise. Donc la lumière, un peu comme on voit sur un arc-en-ciel, hein, c'est la décomposition, la décomposition par un spectre. Et donc les LED ont bien souvent des fortes pics dans le bleu. Et ces pics dans le bleu sont les longueurs d'onde les plus nocives en matière de biodiversité, en tout cas pour la biodiversité. Donc le remplacement systématique doit être étudié, hein. On peut aussi travailler sur l'existant. Par exemple, si on a des lampes au sodium à haute pression, ce sont les lumières un peu orangées qu'on voit en éclairage public, et ben ces impacts sont moins forts qu'une LED si la LED a des pics majoritaires dans le bleu. On peut aussi, par exemple, dans les zones à fort enjeu de biodiversité, envisager d'autres types d'actions, comme de la modulation de l'éclairage, c'est-à-dire commencer à éclairer ou à ne pas éclairer un peu plus tôt ou un peu plus tard dans la nuit, baisser l'intensité lumineuse, ou alors pratiquer à des actions de détection, c'est-à-dire que lorsqu'un riverain, un piéton, un cycliste a besoin de cheminer sur l'espace public, un détecteur automatique viendra allumer la lumière ou l'éteindre lorsque l'usage sera terminé.
Vous disiez tout à l'heure, l'idéal pour la biodiversité serait l'extinction totale. On peut imaginer que ce n'est pas réaliste en milieu urbain, vous l'avez noté, puisqu'il y a pas mal d'usages effectivement à prendre en compte. Est-ce qu'il y a en Bretagne et dans le Grand Ouest, au niveau national ou international, d'autres exemples peut-être de villes à suivre, parce que peut-être villes modèles ou exemplaires pour lutter contre la pollution lumineuse? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a des villes qui sont allées très loin dans cette démarche?
Il y a de nombreuses villes qui pratiquent l'extinction de l'éclairage public, alors qu'elle soit totale ou partielle, sur une partie de l'année ou alors toute l'année. Il y a par exemple en Bretagne les deux parcs naturels régionaux qui ont des actions dans le sens de l'extinction. Il y a aussi la ville de Nantes qui est proactive sur cette question avec des actions d'extinction en cœur de nuit, des modulations d'éclairage et puis des tests d'autres dispositifs comme de l'éclairage passif. Cette tendance va d'abord probablement s'accentuer avec l'augmentation importante du coût de l'énergie. Ce qui servira évidemment l'intérêt de la biodiversité.
Très bien. Et du coup, si on prend l'exemple, par exemple, de Nantes, que vous venez de citer, quel est un peu le retour d'expérience? Est-ce qu'on peut facilement évaluer les bénéfices à court, moyen et long terme, justement, de ces expériences et de ces actions d'extinction lumineuse en milieu urbain?
S'agissant de la biodiversité, c'est pas très, très facile d'évaluer les actions directement favorables. La biodiversité travaille sur du temps long. On doit mesurer les impacts sur les populations au moins sur une année, voire plus, pour avoir des effets sur le long terme. Et le sujet étant assez récent, on manque, malgré les différentes expérimentations qui sont faites sur le territoire, de retour d'expérience pour bien évaluer les gains d'une extinction. Ce dont on est certain, c'est qu'à partir du moment où on éteint la lumière, la pollution lumineuse est pas rémanente. C'est-à-dire qu'à contrario d'une pollution chimique comme la pollution au plomb ou au PCB, par exemple, à partir du moment où on éteint, il n'y a plus d'émissions de pollution lumineuse. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des impacts sur les populations au préalable de cette extinction.
Quels sont encore les freins, justement, ou les contraintes qui empêcheraient un plus fort développement de ces trams noires sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a des aspects, par exemple, commerciaux, économiques? Est-ce que l'extinction peut favoriser la délinquance, l'insécurité routière? Est-ce qu'il y a des difficultés techniques? Est-ce qu'il y a des difficultés financières aussi pour financer? Un manque d'accompagnement? Quels pourraient être les freins qui effectivement, empêchent ce développement de ces trams noires en milieu urbain?
On le voit bien dans les différents exemples cités, les questions, la pollution lumineuse et en lien avec la biodiversité touche de nombreux sujets, énergie, biodiversité, donc partage de l'espace public, etc. Moi, j'estime que les freins sont finalement assez peu nombreux. Concernant l'insécurité ou le sentiment d'insécurité, il y a des études qui sont majoritairement d'ailleurs anglaises, montrent l'absence de conséquences négatives sur la sécurité des habitants lors de l'extinction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation des agressions ou des cambriolages. D'ailleurs, les services de police nous indiquent qu'il y a 80 à 90% des cambriolages qui se déroulent de jour. Il y a aussi les technologies qui évoluent. Par exemple, certaines LED, tout à l'heure, on a dit qu'elles avaient majoritairement un pic dans le bleu qui était assez préjudiciable pour les espèces. Eh bien, certaines technologies n'ont plus de pic dans le bleu, mais sont davantage dans les couleurs ambre ou orangé qui sont moins défavorables aux espèces. Il y a aussi le prix de l'énergie qui va inciter nécessairement à plus de sobriété. On en parle régulièrement. Et puis, il y a aussi les études et les travaux qui prennent du temps. Et les finances publiques des collectivités ne sont pas extensibles. Donc, l'investissement, évidemment, peut être conséquent parce qu'il faut parfois changer les lampes, mais il faut parfois aussi changer les supports, les systèmes de commande, si on veut mettre de la modulation. Pourquoi pas modifier les réseaux. Et donc, il faut planifier ça sur le long terme, mais les gains sont quand même assez conséquents. Par exemple, sur le pays du Haut-Anjou, des estimations ont été faites selon les scénarios d'investissement entre 20 à 30% d'économies lorsqu'on agit sur l'éclairage public et les modulations ou les extinctions de l'éclairage.
Alors, côté citoyen, puisque là, on parlait plutôt des collectivités, des responsables des collectivités qui choisissent ou pas de s'inscrire sur ces transformations. Côté citoyen, en zone urbaine, est-ce que la prise de conscience est encore aujourd'hui difficile ou est-ce qu'elle évolue clairement, surtout avec l'évidence désormais du changement climatique actuel?
Oui, on a quand même l'impression que les sujets environnementaux préoccupent de plus en plus, à la fois chez les citoyens, mais aussi chez les élus. Il y a quand même pas mal de questions qui se posent, des remontées qui se font, des retours d'expérience aussi qui commencent maintenant à arriver de différentes collectivités. Mais sur ces sujets, il est vraiment important d'impliquer les citoyens, voire de même de co-construire avec eux les décisions qui seront prises pour que la modulation d'éclairage ou l'extinction d'éclairage soit finalement acceptée par les citoyens, parce que devenue acceptable avec les discussions qui ont été faites et puis la co-construction des solutions. Il y a parfois des points de blocage qui peuvent exister, notamment sur les zones d'activité industrielle ou artisanale, où là c'est plus compliqué de promouvoir l'extinction d'éclairage. On regarde de la peur du risque de vol, notamment du vol de carburant, du vol de métaux ou de vol de matériaux ou de matériel.
Alors, il y a également, vous le disiez, la co-construction, la pédagogie à réaliser, mais il y a également la réglementation qui fait évoluer ces dernières années et même ces dernières semaines avec le projet d'imposer partout l'extinction des vitrines commerciales lumineuses la nuit. Est-ce que ça, c'est difficile en regard de la réglementation actuelle à faire appliquer? Faut-il encore mieux l'adapter? Est-ce que, par exemple, les vitrines commerciales ont encore un peu de mal à s'éteindre aujourd'hui dans les villes?
Effectivement, mais en réalité, l'extinction des vitrines commerciales n'est pas nouvelle du tout. Ce sont des mesures qui datent depuis 2012, avec un décret qui porte sur la publicité extérieure, les enseignes et aussi les préenseignes. Et puis depuis 2013, un arrêté qui porte sur les vitrines, les bureaux et les façades des bâtiments non résidentiels, avec une extinction prévue de 1h à 7h. Et puis en 2018, l'arsenal législatif de ce point de vue-là a été renforcé avec un nouvel arrêté sur la pollution lumineuse qui traite particulièrement des cas spécifiques des zones à enjeux de biodiversité ou alors à enjeux d'astronomie. Et il nous donne aussi un calendrier de mise en œuvre pour son application qui est assez complet et détaillé.
Alors depuis 2012, ok, effectivement, il y a effectivement des règlements, des décrets qui ont été passés, mais est-ce que pour autant c'est réellement appliqué?
C'est assez difficile. Depuis l'entrée en vigueur en 2018, on voit bien que la réglementation est assez inégalement appliquée. C'est peut-être l'occasion justement de profiter de l'augmentation du prix de l'énergie là, pour communiquer davantage autour des obligations qui incombent à chacun en matière du respect de cette réglementation. Par exemple, l'État est responsable du contrôle pour les bâtiments communaux, alors que le maire, au titre de ses pouvoirs exercés de police au nom de l'État, est légitime pour tous les autres types de bâtiments, les anciennes lumineuses ou évidemment son éclairage public.
Donc il reste véritablement un travail pour faire appliquer ces réglementations et effectivement ne plus retrouver d'enseignes lumineuses, ou très peu, commerciales notamment, dans les villes à partir de maintenant. C'est bien ça, quoi.
Oui, il y a des leviers à appliquer et puis il y a de la connaissance aussi à diffuser. Pas certain que tous les maires aient connaissance de cette réglementation et puis des obligations finalement qu'ils peuvent avoir à apporter cette obligation réglementaire.
Alors justement, pour faire appliquer plus encore ces obligations, pour nos auditeurs et pour les collectivités qui souhaiteraient s'informer plus encore sur ce sujet des trams noirs, où peuvent-ils trouver des références intéressantes, notamment des réglementations, de la documentation, pour mieux comprendre également les enjeux de cette extinction lumineuse, en tout cas de cette réduction forte lumineuse en milieu urbain?
Le CEREMA met à disposition de tous et toutes une série de fiches techniques sur la pollution lumineuse et la biodiversité qui s'appelle astucieusement les fiches AUBE, aménagement, urbanisme, biodiversité et éclairage, et qui traite des impacts sur la biodiversité, de l'arrêté de 2018, des spectres d'émissions dont on a parlé, de la planification et aussi de l'acceptabilité envers les citoyens. Et toutes ces fiches sont disponibles sur le site internet du CEREMA qui s'appelle CEREMADOC.fr.
CEREMADOC.fr. Et d'autres peut-être références également qu'on peut donner à nos auditeurs ?
Oui, il y a d'autres acteurs hein, évidemment de référence, qu'ils soient institutionnels, associatifs, qui mettent des ressources en ligne. Il y a par exemple l'Office français de la biodiversité qui a sorti un guide complet sur la trame noire. Il y a aussi l'Association nationale de la protection du ciel et de l'environnement nocturne qui met des ressources à disposition sur son site internet. Et puis il y a l'Association française de l'éclairage qui met également un certain nombre de ressources en ligne sur son site internet, notamment à destination des installateurs et des collectivités.
Très bien. Jean-François Brotteau, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de projet biodiversité au département des transitions territoriales au CEREMA à Nantes. L'adresse du site internet du CEREMA est le www.cerema.fr. Merci également à Mélène Louten de Radio Naoned, Radio Bretonnante à Nantes, Radio Associative Bretonnante à Nantes, pour la réalisation technique de ce duplex. À très vite pour un nouveau numéro de Biodiversité en Air. D'ici là, prenez soin de vous. Et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.